Un nouveau journal avec Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Les sanctions à l'égard d'un collaborateur d'Emmanuel Macron impliqué dans des violences en marge d'une manifestation du 1er mai, ces sanctions ont-elles été trop légères? L'affaire aurait-elle dû se régler de manière plus transparente? Question posée ce matin après les révélations du journal Le Monde. Nos confrères ont expliqué qu'un chargé de mission auprès du chef de cabinet d'Emmanuel Macron avait frappé un homme et poussé violemment une jeune femme à Paris. C'était donc le 1er mai dernier. Alexandre Benalla assistait, selon sa hiérarchie, en tant qu'observateur au maintien de l'ordre autour du rassemblement. Il portait un casque de CRS. Sanction de l'Élysée après ces violences, 15 jours de suspension, de mise à pied. C'est trop peu pour de nombreuses personnalités politiques à gauche comme à droite. Écoutez ce qu'en dit Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, au sein donc du gouvernement, au micro ce matin de Frédéric Métezeau.
C'est un comportement inacceptable. Il a été invité en tant qu'observateur et il y a eu un comportement qui n'est pas acceptable. Et donc, lié à ce comportement, des sanctions ont été prises. Elles ont été prises immédiatement, à la lumière des informations dont disposait sa hiérarchie, à savoir une mise à pied et un changement de fonction.
Je n'ai aucune indulgence pour la grande violence ou les tenants du désordre, phrase d'Emmanuel Macron après les violences le 1er mai.
Mais c'est le cas. Je veux dire, une personne...
15 petits jours.
Non, ces sanctions, elles ont été prises parce qu'il n'y a pas d'impunité, parce qu'il fallait réagir vis-à-vis de ce comportement. Et ces sanctions, elles ont été prises tout de suite, dès que la hiérarchie a eu connaissance, encore une fois, en l'état des informations dont elle disposait, dès que sa hiérarchie a eu à disposition ces informations, les sanctions ont été prises.
15 jours de mise à pied donc, ainsi qu'une rétrogradation opérationnelle. Il conserve son poste, mais ne sort plus de l'Élysée. Et en attendant une réponse plus étayée de la part de l'exécutif, Emmanuel Macron, lui, va tenter de se reconnecter avec les territoires ruraux aujourd'hui. Le président de la République qui visite la Dordogne pour présenter notamment le nouveau visage de la Marianne qui ornera les prochains timbres-postes. Sur le dossier du passage à 80 km/h sur les routes secondaires, le combat des opposants arrive devant le Conseil d'État ce jeudi. Un recours en référé, en urgence, a en fait été déposé par 57 députés de gauche et de droite, aucun de la majorité. Les élus s'appuient sur différents éléments juridiques pour motiver leur recours. Sur la forme, il y a l'absence de consultation orientée sur des questions environnementales. Sur le fond, ils estiment que c'est une mesure générale et absolue prise de manière arbitraire, ce sont leurs mots. Maître Rémi Jossomme les représente et dit-il, rien ne prouve que cette baisse de la vitesse baissera ensuite le nombre de victimes sur les routes.
C'est une pure supputation, on n'en sait strictement rien aujourd'hui. D'ailleurs, l'administration ne le sait tellement pas plus que les autres qu'elle donne une fourchette totalement invérifiable. C'est en réalité une fourchette qui est souhaitée. Mais on n'en sait strictement rien aujourd'hui. On n'a pas le début, le commencement d'une démonstration qui permet d'asseoir la pertinence de cette mesure-là. C'est bien sûr cet aspect-là de la mesure qui est contesté. À partir du moment où elle est contestée, elle n'est pas acceptée par la majorité des usagers de la route, il faut se poser des vraies questions. On n'est pas des farouches opposants à la mesure. Dès le départ, nous avons souhaiter que cette mesure soit décentralisée, c'est-à-dire qu'on fasse confiance aux autorités locales, les préfets, les associations, les représentants des forces de l'ordre, les services médicaux, pour qu'on puisse identifier à tel endroit les risques de l'accidentalité et adapter les vitesses. Aujourd'hui, on nous lance une mesure générale et absolue, alors qu'il y a certainement des endroits où c'est préférable de rouler à 70 et d'autres où c'est préférable de rouler à 90.
L'avocat Rémi Jossomme avec Florence Turme. La protection des données personnelles inscrite dans la Constitution française, tout comme l'action contre les changements climatiques, les députés ont en tout cas voté en ce sens cette nuit et ils adoptent également l'inscription du service national qui doit faciliter ensuite la mise en œuvre du service national universel voulu par Emmanuel Macron. Comme une triste histoire qui se répète, une quinzaine de personnes ont déjà été condamné pour tentative d'escroquerie ou escroquerie liée aux attentats de 2015. Ce midi, le tribunal correctionnel de Paris juge Alexandra, une possible fausse victime des attentats du 13 novembre. Elle est notamment soupçonnée d'avoir escroqué le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme à hauteur de 20 000 euros. Le récit est signé Antoine Marette.
Elle s'était fait la porte-parole des terrasses du 13 novembre. Elle portait parfois une couronne de fleurs sur la tête et arborait un tatouage près de sa cicatrice. Fluctuat nec mergitur, la devise de Paris en signe de résilience selon elle. La jeune trentenaire se prêtait volontiers au jeu des interviews pour raconter son histoire. Le soir du 13 novembre, elle se trouvait à la terrasse du Carillon avec deux amis. Tous deux avaient trouvé la mort dans la fusillade. Elle avait été blessée au coude par une rafale de Kalachnikov. Sur les réseaux sociaux, elle postait les photos de ses stigmates. Alexandra était inscrite sur la liste unique des victimes, ce qui lui avait ouvert des droits à l'indemnisation. Elle était également très investie dans l'association Life for Paris. C'est cette association qui, la première, a fait part de ses doutes sur la version d'Alexandra. Il y avait certaines incohérences dans son récit. Et puis, ses interviews données au lendemain des attentats. Alexandra y racontait dans des médias étrangers qu'elle était une habituée du Carillon, mais qu'elle n'y était pas le soir de l'attaque. C'est en janvier dernier que le parquet de Paris a ouvert une enquête et a ordonné le renvoi au correctionnel de la jeune femme pour escroquerie et faux témoignage. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de soins psychiatriques.
Le Parlement israélien adopte un projet de loi controversé ce matin. Il définit Israël comme l'État-nation du peuple juif. Le texte stipule notamment que l'hébreu devient la seule langue officielle du pays, alors que l'arabe auparavant avait un statut identique. Il affirme aussi que les implantations juives relèvent de l'intérêt national. L'opposition en Israël estime que cette loi autorise la ségrégation envers les minorités arabes, qui représentent plus de 17% de la population. Le gouvernement indien ordonne l'inspection de tous les orphelinats gérés par la congrégation catholique de Mère Teresa. L'enquête est en fait lancée après l'arrestation d'une de ces nonnes accusée d'avoir vendu au moins 5 enfants, Sébastien Farsi.
Dans cette vidéo diffusée par la police indienne, une nonne avoue aux agents avoir vendu 3 enfants à des couples et donné un quatrième. Cette confession versée au dossier d'instruction fait l'effet d'une bombe en Inde et vient entacher l'organisation des missionnaires de la charité fondée en 1950 par Mère Teresa. La religieuse incriminée ainsi qu'une autre employée aurait demandé 1500 euros à un couple qui a finalement porté plainte et révélé l'existence de ce trafic. Celui-ci durerait en fait depuis quelque temps, car dans leur foyer pour femmes enceintes et célibataires, 450 enfants sont nés depuis 3 ans, mais seulement 170 ont été enregistrés, aucune trace donc des 280 bébés restants. Or c'est justement il y a 3 ans que les missionnaires de la charité ont arrêté de fournir des enfants à l'adoption publique suite à un renforcement des procédures. L'organisation catholique nie l'existence d'un tel commerce et affirme que ceci est une opération de calomnie de la part des groupes hindouistes, mais le gouvernement a demandé une enquête immédiate dans tous leurs foyers situés en Inde.
Et selon les chiffres officiels, près de 90 000 enfants s'évaporent chaque année dans le pays. La météo de ce jeudi qui débute en France, toujours estivale avec du soleil, quelques pluies sont attendues sur les pays de la Loire et les températures toujours hautes avec 21 à 26 ce matin au nord, 24 à 30 sur le sud.